Je vous dis bonjour et en espérant que tout un chacun nous nous portons bien en ce matin, je voudrais vous apporter un message, une réflexion, une exhortation comme venant de la part du Seigneur. Bien souvent, vous allez bien? Bien souvent, comme l'a dit notre frère, Dieu prépare, il prépare à la réflexion. Et cette fois-ci, il a préparé de manière réel. Ne voilà-t-il pas que vendredi, après une semaine éprouvante, vendredi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis jeté sur mon canapé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Crac. Non, c'est pas, non. Le canapé a fait crac. D'accord? Et je suis resté sidéré, j'ai entendu crac et je n'ai pas voulu bouger, mais je me suis dit, il faut que tu te lèves. Réfléchis, comment annoncer cela à mon épouse, qui voulait déjà changer le salon, donc prétexte ou pas. Et il fallait l'annoncer, et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On jette ou on ne jette pas? Parfois, frères et sœurs, nous jetons des objets sans trop réfléchir, parce que ça s'est cassé, parce que c'est obsolète, parce qu'il y a un nouveau appareil, parce qu'on n'a plus envie. Pour ce canapé, il était vieux, mais il était encore bon. Et quelquefois, les canapés sont tachés, déchirés, parce que les chats, ils font leurs griffes, les enfants mangent sur les canapés, dans les canapés, au travers des canapés. Bien souvent, nos canapés sont affaissés, décolorés, et nous croyons qu'ils ne valent plus rien. Le regard du monde dit à ce moment-là, quand quelque chose n'est pas bon, déchet bon pour la casse, irrécupérable, en s'imaginant encore une fois que tout est perdu, tout est fini. Ce regard humain, cette orientation, frères et sœurs, elle est rapide, définitive et sans retour. Quand nous décidons de jeter quelque chose, nous le faisons. Mais voilà, dans la vie, il y a toujours des opposés. Il y a ceux qui jettent et ceux qui récupèrent. Et je suis en admiration devant cette deuxième catégorie. Ils récupèrent des objets, des encombrants, et en font quelque chose de waouh, de merveilleux. Ils s'appellent souvent des artisans, encore des bricoleurs. Ils ont un regard avisé, je dirais un regard amoureux, parce qu'ils savent la valeur de leurs dix doigts. Et en regardant les vieux canapés, je me baserai sur mon canapé, ils voient dans ce vieux canapé autre chose qu'un canapé cassé. Ils voient une opportunité. Ils examinent la structure, soulèvent les coussins, regardent si les ressorts sont toujours là. Ils y font le tour et ils disent « Je le prends ». Avec du soin, du temps, de la patience et une nouvelle mousse, du tissu, ce canapé fera l'affaire. J'en ferai quelque chose. Et parfois, comme vous l'avez dit, ce canapé restauré est d'autant plus beau qu'à l'initial. Combien ce matin dans cette église se sentent leur vie comme des canapés? Les vieux, on parle d'abord des vieux canapés. Bien souvent, nous pensons que nos vies vis-à-vis des blessures, des échecs, vis-à-vis du péché, les déceptions, les trahisons ou les souffrances peuvent donner l'impression d'être irrécupérables. Et nous disons que tout est fini. Surtout quand le diable nous murmure à l'oreille, ce n'est pas la peine d'espérer, Dieu t'a oublié, ton dossier, il est en bas de la pile. S'il t'aimait vraiment, il aurait déjà fait quelque chose pour toi. Jérémie a pu l'expérimenter en disant, mon existence est finie. Mon espérance que j'avais en Dieu a pris fin. Plus d'espoir, plus rien. Nous nous considérons comme des objets qui n'ont plus de valeur, qui sont bons et utiles simplement à mettre à la déchetterie. Et je voudrais te rappeler en ce matin que Dieu a un autre regard sur toi. Là où les hommes voient une vie détruite, une vie à jeter, une vie à rejeter, Dieu voit une œuvre à restaurer. Là où nous abandonnons trop vite peut-être, Dieu, lui, il veut commencer. Notre Dieu ne s'appelle ni le bricoleur. D'ailleurs, il n'est pas bricoleur. Et dans Ésaïe, chapitre 58, verset 12, il est dit qu'il est celui qui répare les brèches, qu'il est celui qui restaure les chemins. Alors je qualifierais mon Dieu, non pas de bricoleur, mais comme le restaurateur, celui qui restaure les vies brisées. Notre Dieu ne fait pas du rafistolage. Il ne coupe pas une pièce neuve sur un vieux vêtement. Il n'est pas non plus un alchimiste. Il ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Quand Dieu restaure, il le fait correctement, en toute sagesse. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as l'impression que ton histoire est terminée, écoute bien. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et je me rappelle d'M.C. Solar qui dit qu'il est dans la place, et ce matin je te dirai, ton Dieu est dans la place. Tu n'as rien à craindre. Quand il voit ta vie, il a certainement dû se dire, ou il se dit, celui-ci, ce vieux canapé, je le garde. Je vais en faire un chef-d'œuvre. Quelque chose pour ma gloire. Je t'invite à ouvrir ta Bible ou à scroller, à ouvrir le logiciel Bible Online ou que sais-je, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, verset 3, du verset 1er au verset 3. C'est le premier texte. Et après, nous irons dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2, au verset 25. Deux prophètes qui annoncent deux choses différentes. Une parole complétant l'autre. Une prophétie et une application, une prophétie et une réalisation. Ésaïe 61, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. J'avais préparé un super PowerPoint, mais vraiment, j'étais content de moi. Et puis là, pouf, disappear. Et là, je me suis dit, mais comment les prédicateurs faisaient avant, quand il n'y avait pas la technologie? Il n'y avait pas ça, alors finalement, on fait comme ça. C'est tout. C'est tout, voilà. Ésaïe 61, tout le monde a trouvé. On lit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Première parole. Deuxième parole dans le prophète Joël, Joël chapitre 2 au verset 25. Il est dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Et on s'arrête là. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Et ce n'est pas Joël qui l'a fait, c'est Dieu qui parle au travers de la bouche de Joël. Frères et sœurs, revenons à Ésaïe, dans cette promesse. Et c'est une promesse de restauration que l'Éternel fait de par la bouche de son serviteur pour son peuple. Il y a premièrement, à l'image du restaurateur de canapé, les mêmes fonctions que Dieu utilise, que Dieu, dans lesquelles Dieu s'oriente. Avant de réparer le canapé, l'artisan, il le regarde, il l'examine, il le scrute, il juge. Et pourtant, il ne voit pas un vieux canapé bon à jeter, il ne s'arrête pas aux apparences. Il voit au-delà de cela un potentiel, un objet à revaloriser. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es ici présent, quand Dieu te regarde, il ne voit pas un déchet. Il ne voit pas quelque chose qui ne vaut plus la peine. Il voit en toi, premièrement, sa créature, l'objet de sa volonté, en qui il a mis un potentiel extraordinaire. Et David pouvait dire, « Je te rends grâce, ô Éternel, car je suis une créature si merveilleuse. » Alors peut-être que toi-même, tu n'es pas content ou contente de toi, mais Dieu t'a créé de manière parfaite. Il n'y a rien à retrancher, ni rien à ajouter. Il y a des pâles, il y a des plus foncés, il y a des plus jaunes. Les plus jaunes, c'est les chabins, ou les plus rouges. Regarde à côté de toi et c'est l'œuvre de Dieu. Et son œuvre est parfaite. En quelque part, mon frère, ma sœur, ta valeur n'est pas négociable. Dieu t'aime tel que tu es. Et quand il te regarde, il se dit, mais c'est mon œuvre, c'est ma création. C'est l'objet de ma volonté. En un mot, le fait que tu existes, tu portes en toi la signature de l'artiste. Je suis créature de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a un regard sur toi. Alors peut-être que tu te dis, mais mon frère, depuis le jour, mais attends qu'il passe à l'autre étape. Pour l'instant, il t'examine, il te regarde. Et je voulais te dire, dans cette notion de regard, il faudrait peut-être que tu changes ton regard que tu as sur toi-même. Il y a des exemples bibliques, Gédéon. Je suis le plus petit de la plus petite de ma famille, Seigneur, non. Et pourtant, l'Éternel l'a appelé vaillant héros. On se sent quelquefois rikiki, sans force. Mais Dieu veut te rappeler en ce matin qu'il a des projets pour toi, même si tu as un canapé à jeter. Arrête de te voir avec tes conceptions humaines. Parce que Dieu, lui, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et Dieu connaît parfaitement ton cœur. Après avoir examiné le canapé, alors, il commence à travailler. Il commence à travailler en retirant toute la tapisserie, tout le tissu d'ameublement qu'il y a sur le canapé, afin de voir l'état des mousses, de la mousse des coussins, n'est-ce pas? Et après, il commence à voir l'ossature. Mon frère travaille en menuiserie, il sait ce que ça veut dire. Il teste, il pointe pour voir s'il n'y a pas des mi-bois, des... Voilà. Cela demande, frères et sœurs, de la patience. Cela demande de la délicatesse. De la manière dont Dieu fait avec un autre, ce n'est pas de la même manière qu'il va faire avec toi, parce qu'il te connaît parfaitement. Alors tu peux te dire, mais Seigneur, depuis le jour. Et je veux te rappeler simplement ceci, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, il veille sur toi et il agit en son temps. Sois patient, parce que lui-même, il est patient envers toi. Ésaïe nous dit, Voilà, l'Esprit du Seigneur pour moi, pour consoler, pour donner un diadème au lieu des cendres. Mais vous savez, frères et sœurs, avec la nouvelle technologie, des cendres, on peut tirer un diadème sous une très forte pression. Les molécules s'éclatent. J'ai pas fait science physique, donc voilà. Mais et ça donne quelque chose de très beau. De l'huile de joie au lieu d'une huile de deuil. Mais ça, ça prend du temps, frères et sœurs. Ça prend du temps pour parler à Dieu et pour que Dieu réponde. Dieu prend du temps pour te prendre dans ses bras. Le travail de restauration prend du temps, frères et sœurs. Contrairement à ce que nous, nous vivons, tout va de manière très rapide, n'est-ce pas, très vite. Dieu, lui, il prend son temps. Il faut remettre tout à neuf et cela demande de la délicatesse. Et tu sais pourquoi Dieu a décidé de travailler dans ta vie? Parce que mon frère, ma sœur, Dieu s'est engagé vis-à-vis de toi. Dieu a signé une alliance qui lui a coûté et nous l'avons commémorée en ce matin. Cette alliance, il l'a scellée par la mort de son fils Jésus, qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour toi, pour moi. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu es en attente. Alors peut-être que tu te dis, je ne sais pas quel privilège j'ai auprès de Dieu. Certainement que Dieu me tolère dans ma manière de vivre parce que ma vie n'est pas encore bien. Les coussins ne sont pas encore restaurés. Les bois ne sont pas encore vernis. Je voudrais te dire en ce matin que Dieu ne nous tolère pas. Dieu nous aime. C'est comme le mariage. Quand on parle souvent à certains couples mariés, soit l'épouse ou le mari, chose que j'ai déjà entendue, « Ah, frère, moi, manque à cipoter. » Mais manque à dire qu'il faut passer à un autre niveau, à un autre stade. Arrêtez cipoter. Et puis décider un mail. Et c'est deux positions totalement différentes, hein. Quand je le supporte, il est sur mon dos, mes épaules. N'est-ce pas? Vraiment, on va supporter, hein? Vraiment. Alors que si vous capotez entier, il a. Et comme ossature là, bon Dieu, ben on ossature. Si on dit dingue, on dit entier, ou capotez. Ma soeur, comment vas-tu? Je vais bien. J'aime mon époux. Mon frère, comment vas-tu? Madame, moi, c'est toute richesse, moi. Alléluia. Nous avons un regard vraiment humain sur nous-mêmes, sur la patience que Dieu a vis-à-vis de nous. Et nous calquons, frères et sœurs, nos mots sur Dieu. Ah, peut-être que Dieu me tolère, hein, parce que depuis le jour, n'as-tu jamais entendu dire que Dieu est patient et miséricordieux? Il est patient envers nous. Il use de bonté et de miséricorde. Non pas parce qu'il nous tolère, mais parce qu'il nous aime. Le travail que Dieu fait, on pourrait se dire, mais Dieu travaille dans ma vie. Et là, c'est une erreur, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le texte biblique, en général, demande une collaboration. Dieu ne travaille pas seul, Dieu travaille avec nous. La main dans la main, avec notre accord. Un avocat ne peut prendre notre défense que si nous signons un contrat avec lui et que si nous lui disons la vérité, il pourra défendre notre cause. Ainsi agit Dieu dans nos vies. Dieu ne fait pas quelque chose dans ma vie, Dieu fait quelque chose avec moi. Et cette phrase change toute la donne. Je suis responsable du changement que Dieu veut opérer dans ma vie. Après avoir regardé, examiné, sous-pesé, il commence à travailler et quand le travail est en bonne voie, alors il y a une gloire qui apparaît. Dieu peut rendre son ouvrage, c'est-à-dire ta personne, ta vie, beaucoup plus beau qu'avant. Et là, on n'a pas cette notion. On ne voit pas plus loin, on ne voit pas comme Dieu. On voit simplement quelques petites améliorations. Seigneur, si tu fais ça pour moi, c'est bon. Non, Dieu ne veut pas améliorer ta vie. Dieu veut la restaurer. Et il y a un frère qui m'a dit un jour, « Oh, mon frère, je souhaite prendre le tabouret. Quand je vais arriver dans le trône de Dieu, dans son royaume, je vais m'asseoir sur le tabouret, là-bas, tout au fond, à droite, que Dieu m'a réservé. » Et je lui ai dit, « Mon frère, écoutez-moi bien. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a des trônes là-haut, il n'y a pas de tabouret. » On minimise les choses, même les choses de Dieu. On dit, Seigneur, bon, ok, ma vie, elle est comme elle est, mais si tu peux faire ça pour moi, je serai au moins bien. Non, Dieu ne veut pas faire ça pour toi. Dieu veut faire au-delà de ce que tu penses. Et c'est là où un peu où on freine Dieu dans son action. On lui dit, non, Asma, un tout petit peu. Mon frère, ma soeur, quand tu as faim, Et qu'on t'invite, tu n'as rien à payer. Et là, on te sert le plat que tu aimes le plus. Et tu as faim. Celui qui t'invite te donne la plus grosse part. Et toi, tu dis, mais non. Vous connaissez ça? Et pourtant, il veut t'honorer parce que tu es son invité. Donc, il te donne la plus belle part. Et toi, tu dis, non, mais... Et bien souvent, Dieu veut faire ça avec nous. Il veut nous honorer. Il veut que sa gloire paraisse dans nos vies. Et nous disons, Seigneur, pas d'éclat, juste un petit rayon de soleil. Et le texte dit qu'il va faire de nous des térébintes. Les térébintes, frères et sœurs, c'est un arbre costaud qui plante des racines profondément dans la terre. Rien ne peut contrarier le fait que cet arbre puisse porter des feuillages et des fleurs. Les saisons peuvent passer, le térébinte est toujours top forme. D'accord? Et ça, c'est une image de la gloire de Dieu, une gloire permanente. Le but final, mon ami, ce n'est pas que tu aies un joli canapé chez toi. Le but final, ce n'est pas que ma vie soit bien pour moi et pour les autres. Si le but final de tout un chacun d'entre nous était que nous soyons sauvés, nous toutes là, nous étions en ciel. Oui ou non? C'est qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose que nous devons manifester pour les autres, non pas pour nous. Quand Dieu nous restaure, il ne veut pas nous cacher, nous mettre derrière une vitrine. Tu sais, comme chez les brocanteurs, ils prennent un vieux objet, ils le réparent, ils l'astiquent tout et tout, et après ils mettent dans la vitrine. Ce n'est pas ce que Dieu veut faire de toi. Dieu te restaure, il restaure la maison, il restaure l'intérieur, il restaure ta famille pour te dire, Va maintenant. Vous vous rappelez du lépreux, des 10 lépreux, et il y a un qui a été guéri. Il retourne vers le Seigneur, lui dit, Seigneur, je veux te suivre, je veux... Va, va te montrer au sacrificateur et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Quand tu as un nouveau canapé restauré, alors, il y a des choses qui changent dans ta vie. Les personnes que tu ne pouvais pas inviter chez toi parce que le canapé n'était pas bon. Les canapés à neuf qui arrivaient, Jessica, je t'invite à manger à la maison. Xavier, tu viens tel jour? Pourquoi? Parce que je suis content de montrer à mes amis mon nouveau canapé. N'est-ce pas? Mais à ce moment-là, la gloire, elle est pour moi. Le frère m'a invité chez lui pour montrer son canapé. Frère, ni l'argent, ni ceci et cela, il me montre. Or, ce n'est pas ça. Quelquefois, on vole la gloire de Dieu pour nous. Quand Dieu nous restaure, c'est pour nous montrer aux autres, afin que les autres disent, mais dis-moi, tu n'étais pas bon. Et pourtant, on dirait que tu es bon maintenant. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait ça? Et à ce moment-là, tu respires un bon coup et tu proclames la gloire du Dieu vivant et vrai. Tu dis aux gens qui a restauré ta vie. C'est ça la gloire de Dieu. Ton témoignage de restauration devint une enseigne pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ta restauration, et quand Dieu restaure, ce n'est pas une finalité en soi. C'est le début de ton témoignage, le début de ton appel, le début de ton service pour la gloire de Dieu. Et tout cela, frères et sœurs, Joël l'explique. Ésaïe a prophétisé. Je vais changer les cendres en diamants. Le deuil en allégresse. Et Joël dit en Joël, chapitre 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles. Alors, frère-moi, c'est moi, pas trop bouger et pas comprendre ça, m'ont pas dit. Si vous pètez 10 000 euros, m'ont pas qu'à dire que bon Dieu, Kériba, 10 000 euros. C'est pas ça, m'ont dit. Et ce n'est pas ça, texte-là qu'a dit. Est-ce que nous sommes d'accord? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est-à-dire qu'à la place du deuil, je vais mettre la joie. À la place de la crainte, je vais mettre la paix. À la place du désordre, je vais commencer à ordonner ta vie. En un mot, non seulement Dieu restaure, mais par sa restauration, frères et sœurs, il te rend les années où tu étais triste, où tu ne pouvais pas inviter des gens chez toi à cause du canapé, où tu n'as pas pu s'asseoir, Dieu va faire au-delà. Quand la honte te dévorait, Dieu va remplacer par la gloire. Ce que le péché a volé, Dieu va le restituer. Ce que les hommes ont jeté ou rejeté, Dieu va couronner tout cela. Dieu ne fait rien pour rien, il fait tout pour un but. Il compense, il restitue avec intérêt. Je veux te parler simplement de notre ami Job. N'est-ce pas? Un riche terrien. L'épreuve est tombée sur lui. Il a eu un dialogue avec Dieu. Et après, comment Dieu a restauré sa vie? Au centuple. Ses enfants étaient plus beaux que ceux d'avant. Et ses biens beaucoup plus nombreux. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, ceci. Le processus de la restauration demande du temps. Mais c'est un processus certain. Est-ce que nous avons besoin d'être restaurés, tout un chacun d'entre nous? Je crois que oui. Quel que soit le domaine de nos vies. Et je voudrais t'inciter ce matin à ne pas mépriser ce processus. La cendre doit devenir un diadème. Laisse Dieu travailler ta vie de la manière dont lui, il veut. Ce n'est pas la peine de lui dire, « Seigneur, change le tissu. » Dieu n'est pas encore prêt à changer le tissu. Il est en train de traiter le bois. Donc laisse-le travailler. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, pour toi, seront des années qui vont nourrir les autres, en espérance, en froid. Tout cela parce que tu as de la valeur pour ton Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Et je m'imagine une chose, dans son plan de salut pour toi, j'ai du mal à croire que Dieu puisse s'accommoder de ton absence dans son ciel de gloire. Quand tous vont festoyer au repas des noces, il va simplement se dire, mais il est où Fernand? Il est où David? Dieu ne pourra pas se passer de ta présence. Donc laisse-le restaurer ta vie, afin que tu sois là-haut pour festoyer avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse cette promesse. Je veux te restaurer, te remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cette parole nous rappelle, frères et sœurs, que rien n'est définitivement perdu lorsque Dieu intervient. L'œuvre qu'il a commencée, il veut la poursuivre dans ta vie, dans chacune de nos vies. Alors la question n'est plus, Dieu peut-il me restaurer? La question devient, vais-je laisser Dieu me restaurer? Parce qu'il le veut. Et tu le sais, mon ami, dans le livre d'Apocalypse, il est marqué, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Cela veut dire que Dieu ne force personne. Et certainement, il attend, oui, Seigneur, je suis prêt à ce que tu commences une œuvre de restauration dans ma vie. À tout égard, certains d'entre nous sommes fatigués, fatigués de faire semblant que tout va bien, fatigués de montrer aux autres que nous sommes forts, fatigués de montrer aux autres que nous sommes des personnes très spirituelles. Le tissu en dehors du canapé, il peut être très beau, mais à l'intérieur, la mousse, les ressorts, les lattes du canapé sont cassées. D'autres ont tellement honte de leurs cendres qu'ils n'osent plus croire au diadème. Ma situation, elle est finie, il n'y a plus rien à faire. D'autres encore calculent les années dévorées et se disent, c'est trop tard, ce que j'ai perdu, Dieu ne va pas me le restituer. Et je voudrais te dire, mon ami, il n'est jamais trop tard de se laisser restaurer par Dieu. Si les sauterelles ont mangé 5 ans, 10 ans, 20 ans de ta vie, sa promesse tient toujours. Je vais te remplacer ces années-là qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu ne remonte pas le temps, il ne rachète pas le temps. Alors, Dieu ne remonte pas le temps, il rachète le temps. Je vais t'inviter à réfléchir sur la restauration que Dieu veut faire dans ta vie. Je vais te demander de faire silence en toi-même et de te repasser ce que tu as entendu, afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer librement dans ton cœur. En ce matin, nous voulons mettre dehors toute pensée diabolique, satanique, disant que tu es bon pour la casse. Nous voulons déclarer ce que Dieu a dit. Tu es mon œuvre. Tu es mon chef-d'œuvre. J'ai apposé ma signature par ton Esprit Saint, qui est le garant de ma promesse dans ta vie. À la croix, tout a été accompli. Je t'ai même donné mon esprit pour aménager tout ton chez-toi, canapé, fauteuil, divan, frigidaire, tout ce dont tu as besoin mon esprit est là pour s'en charger. Et je t'ai mis au sein d'une communauté afin que tu puisses grandir avec des frères et des sœurs. La seule personne qui puisse dire que ta vie est finie, c'est toi-même. Ce matin, si tu te sens irrécupérable, si le diable t'a convaincu que ta vie est bonne pour la casse, si tu portes des cendres secrètes que personne ne voit, je te propose ce matin de vider les cendres, de venir devant l'autel de la grâce. Je voudrais ce matin que tu fasses un acte de foi. Lève la main, mets-toi debout, fais ce que tu veux. Mais ne dis pas en toi-même, je suis fort. Je n'ai pas besoin du Seigneur, je vis ma vie, ça va pour moi. Dis au contraire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Commence ton œuvre de restauration dans ma vie. Si tu es un disciple de Christ et que tu vis avec des lattes cassées, des ressorts cassés, ta joie est certainement affaissée. Ton esprit est peut-être abattu. Mais ce matin, Dieu veut te restaurer. Il veut déverser sur toi une huile fraîche. Fais un acte de foi ce matin. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu pleures par rapport aux années perdues, tu regardes en arrière et tu vois des sauterelles partout. Il y a de l'addiction, il y a les conséquences du divorce, l'avortement, la prison, les compromis. Le verset de Joël est pour toi. Le Seigneur va remplacer ces années-là pour toi. Reçois cette parole comme une promesse ce matin. Et proclame que le voleur n'a pas le dernier mot. Prions le Seigneur. Je vais demander à Maryse de venir. Maryse et les autres.